Jasper ?
Ouais ?
Je peux avoir un peu plus de voix ?
Et on peut avoir un peu plus de trombone aussi.
Bah, écoute, maman, il n'y a pas de trombone.
Tu vois, moi, je crois qu'on devrait toujours coucher au moins une fois avec des amis. Pour être sûr qu'on n'en est pas moins.
Il n'y a pas de trombone ?
Non, il n'y a pas de trombone, c'est tout.
Mais ce serait mignon, la fanfare sans trombone.
Le métier de scénariste au cœur d'une émission exceptionnelle aujourd'hui sur CFM avec notre invité Alain Lérac. Bonjour Alain.
Bonjour.
Alain est scénariste à Véronèse, né à Decazeville.
Oui, effectivement.
Depuis, vous vivez plus en Aveyron, mais vous y repassez régulièrement.
Ah oui, je suis parti à Paris à 18 ans, mais je passe 2 mois ou 3 mois chaque été dans l'Aveyron. C'est là que j'ai écrit d'ailleurs la plupart de mes scénarios.
Tiens, pour vous situer, parce que j'ai dit Alain Lérac, scénariste, mais vous vous situez un petit peu, Alain, quand même. Vous êtes notamment le créateur de la fameuse et célèbre série de TF1, Une famille formidable.
Oui, qui dure depuis 25 ans.
Bah ouais, ouais.
Qui peut-être me survivra. On était parti pour une saison ou deux, et là, ils sont en train de tourner pour la 25e année, Une famille formidable. Je crois que c'est la plus vieille série de la télé française.
Pas un énorme succès, hein, quasiment tous les Français. On a vu au moins quelques images de cette série avec Annie Dupéret, notamment.
Oui, et ça me rajeunit pas d'ailleurs, j'ai des étudiants qui ont regardé la série quand ils étaient petits. Et donc c'est une série qui fait partie de souvenirs d'enfance, alors que pour moi c'est des souvenirs d'adultes.
Et vous êtes aussi un scénariste de cinéma, Alain Lérac, avec de nombreux films à la clé, je vais en citer quelques-uns. Mauvaise fréquentation, Élou Doyon, une actrice de ma génération notamment. D'autres films signés Alain Lérac pour le scénario, c'est Barnier et ses petites contrariétés.
Oui, c'est ça.
Avec Fabrice Lucchini.
Et Nathalie Baye.
Qu'il faut pas oublier, qu'on n'oublie pas évidemment. Un autre film dont vous êtes particulièrement fier, Alain ?
Je suis très fier d'Héroïne, parce que c'est un film qui a été tourné en partie dans l'Aveyron.
Oui.
Et qui m'a valu de retourner. Ce qui fait d'ailleurs que les deux héroïnes du film ont des propos sur leur avenir sur Decazeville, assises exactement au même endroit où moi j'avais ces propos-là avec mon meilleur ami. Donc effectivement, je pense que le film qui me tient le plus à cœur, c'est Héroïne.
Sorti en quoi ? Il y a une vingtaine d'années,
sorti,
un peu plus.
Oui, en 97. Mmh. Sinon, il y a un film que j'aime beaucoup aussi, c'est Avant qu'il ne soit trop tard, avec Olivier Citruc, dont nous allons reparler dans cette émission.
Et tout à fait, Olivier Citruc, que l'on va entendre parler et entendre lire, surtout, puisque vous nous avez réservé un beau et un grand privilège, Alain Lérac, à l'occasion de la sortie d'un livre à la rentrée. Un livre intitulé Atelier d'écriture et qui sort aux éditions Hémisphère. Alors, je parle de livre, mais on n'est pas du tout sur un roman.
Non, c'est pas du tout un roman, c'est un livre assez atypique, c'est pas non plus un essai, c'était au départ, c'était sous-titré Petit manuel d'écriture et de vie, et c'est vrai que j'ai toujours lié la vie et l'écriture, et c'est à la fois 25 ans d'expérience d'écriture que j'ai voulu transmettre en fait, que je transmets en général à l'atelier avec quelques personnes et que j'ai voulu transmettre à tous les gens d'ailleurs qui veulent écrire aussi bien un scénario qu'une pièce de théâtre qu'un roman. J'ai voulu élargir l'écriture. C'est aussi, en fait, vraiment un livre très personnel. Vous le verrez dans l'émission, puisqu'on va en lire. Enfin, Olivier Citruc m'a fait le grand honneur de lire à ma place, étant donné que j'écris, moi, pour des comédiens, que j'ai dû, là, écrire 200 pages à la première personne, ce qui ne m'est jamais arrivé de ma vie. Le scénario s'écrit toujours à la troisième personne.
Oui.
Du coup, je crois que j'assume pas encore de lire à haute voix ce que j'écris. Donc j'ai retrouvé mes vieux réflexes et fait appel à un comédien pour vous lire des extraits de ce livre.
Olivier Citruc, on va retrouver à la lecture donc de nombreux extraits de ce livre intitulé Atelier d'écriture, signé Alain Lérac, qui sort au début du mois de septembre aux éditions Hémisphère. Olivier Citruc, tout de suite, vous restez avec nous, Alain, on se retrouve juste à la fin.
Merci.
Lecture du livre d'Alain Lérac. Atelier d'écriture, 50 conseils pour réussir son scénario sans rater sa vie, pour CFM Radio. De 6 à 86 ans, j'ai vu des gens bâiller, tricoter, lire le journal, s'évanouir, s'énerver, entrer en dépression ou en sortir grâce à l'écriture. Et j'ai compris très tôt que les raconteurs d'histoires certifiés, les scénaristes professionnels, n'étaient pas, et de loin, ceux qui avaient les plus belles ni les plus passionnantes histoires à raconter. Qu'ils étaient simplement les seuls à posséder les outils pour le faire. Pour moi, le métier de scénariste s'est toujours apparenté à un artisanat. Un jour, dans la classe d'un lycée professionnel, devant une vingtaine d'apprentis menuisiers, j'ai expliqué aux élèves que construire un scénario n'était pas si différent de construire un meuble. Et je le pensais vraiment. Comme un artisan, on est généralement payé par un tiers à la commande, un tiers à la livraison, un tiers à l'acceptation. Et cette dernière étape est toujours aléatoire, livrée à la bonne foi et à la sensibilité du client, qu'il soit producteur ou réalisateur. Comme un bon artisan, on peut parfois réaliser une œuvre écrite, ou un meuble de qualité, qui deviendra accidentellement de l'art. La remise en cause perpétuelle du travail accompli, le sens du détail, le goût de l'ouvrage bien fait sont pour moi aussi importants chez un étudiant que la créativité et le talent. Car avant le talent, il faut déjà le savoir-faire. Et pour avoir eu des centaines d'étudiants et lu des milliers de scénarios, je sais que le vrai talent est rare. Par contre, son corollaire, la prétention, fait actuellement fureur. Et que le vrai savoir-faire et ses alliés de toujours, la conscience professionnelle, la vaillance et l'humilité, ne courent pas les rues dans un milieu du cinéma où quelques bons faiseurs et quelques spécialistes de la promotion, la leur en premier lieu, sont fréquemment pris pour des talents majeurs. C'est avec une vraie tristesse que j'ai constaté au fil des années que mes étudiants les plus habités et intègres ne réussissaient pas, alors que les plus malins, ceux qui avaient du savoir-faire et accessoirement un beau sourire, gravissaient un à un les échelons de la reconnaissance, voire de la gloire. Pour travailler avec un élève, de l'idée de départ d'une histoire jusqu'à la centaine de pages du texte final, j'ai essentiellement besoin d'être convaincu de la vraie nécessité pour lui ou elle d'écrire ce projet. À défaut d'une quelconque nécessité commerciale qui, même si on ne peut pas la négliger totalement, passera toujours pour moi au second plan. Je crois avant tout à la sincérité, à la persévérance et à une forme de courage, doublée d'une bonne dose d'inconscience comme beaucoup de véritable courage. Car il en faut du courage pour se jeter dans le vide d'une page blanche, pour essayer d'en extraire non pas juste des mots, mais des personnages vivants, des émotions palpitantes. Et ce courage est rarement récompensé. Mais quand il l'est, quel bonheur! Quand tout à coup, on a rendu des personnages tellement complexes et vivants qu'on n'a plus besoin de les guider comme des parents bienveillants ou des chiens d'aveugle avisés. Quand on n'a plus qu'à les suivre dans les contrées intimes et divertissantes où elles nous embarquent malgré nous. Quel bonheur! Quel bonheur quand vous avez passé des mois à mettre en place une intrigue et que tout à coup, elle vous emporte avec une évidence implacable. Quand vous la lisez comme si vous la découvriez pour la première fois et qu'elle vous procure des émotions que vous ne soupçonniez pas, alors que c'est vous-même qui les avez créées. Peu importe finalement que l'histoire que vous avez écrite soit tournée ou pas. Je vis avec des scénarios, avec des personnages qui n'ont jamais accédé à l'écran, mais qui resteront toujours plus essentiels pour moi que nombre d'autres tournées où j'ai échoué à faire passer ce sentiment de vie. Il y a des histoires nées au mauvais moment, au mauvais endroit, ou livrées à des regards malveillants. D'autres histoires auxquelles on n'a pas assez cru pour y faire croire les autres. Des personnages qu'on n'a pas assez aimés, par manque d'attention, de temps ou de travail. Et puis, il y a quelques personnages, parfois des tout petits, qui s'incrustent dans votre vie et restent pour longtemps dans votre imaginaire. Vous vous dites parfois, qu'est-ce qu'il aurait pensé là? Qu'est-ce qu'elle aurait fait à ma place? Ces personnages-là vous accompagnent bien au-delà de l'écriture des scénarios, bien au-delà du film tourné ou pas. Ils ont pris leur indépendance alors que c'est vous-même qui leur avez donné la vie. C'est pour rencontrer ces personnages-là qu'on écrit, pour découvrir à travers eux qui on est ou entrevoir qui on pourrait être. Je vais essayer dans ce livre, et sans aucune garantie de réussite, mais je l'espère une garantie de découverte, de donner des bases à tous les rêveurs anonymes, les raconteurs d'histoires méconnus, les apprentis scénaristes timides et isolés. Car je pense encore, après toutes ces années passées à écrire, qu'un scénario, qu'une histoire en général, qu'une expérience sincère couchée sur du papier peuvent changer une vie. D'abord la vôtre, et avec une conjonction heureuse de chance, de travail et de talent, peut-être celle de dizaines ou de millions de personnes. Qu'il n'y a rien de plus beau et de plus libérateur que d'écrire, que de se raconter des histoires. Chapitre 1. Le mythe de la page blanche. J'offre généralement à chacun de mes étudiants, en début d'atelier, un petit carnet, pour qu'ils y notent chaque semaine des observations puisées dans leur quotidien. Des phrases entendues au cours d'un dîner, des comportements observés dans la rue, des démarches, des tics, des petits ridicules ou de grandes idées toutes faites. La meilleure source d'inspiration, celle qui ne se tarit jamais, contrairement à toutes les autres, c'est la réalité, la vie. Et si l'on peut s'arrêter de vivre quelque temps pour écrire, on n'écrira jamais quelque chose aussi bien que si on l'a vécu, vu et éprouvé. On n'écrira jamais quelque chose de vivant en se coupant longtemps de la vie. Les réseaux sociaux occupent aux trois quarts les journées de travail de la majorité de mes étudiants. Facebook, Twitter, autres. sont de bons pourvoyeurs de détails ou d'anecdotes généralistes. On peut y trouver un point de départ, au même titre qu'on peut en trouver en lisant les rubriques faits divers des journaux. Le ressenti est irremplaçable. Les terrasses de café, les bancs publics, la rue ou la nature seront toujours meilleures sources d'inspiration pour les scénaristes que la solitude d'un bureau, où en général il ne passe personne. La qualité première d'un scénariste, contrairement à la pensée commune, n'est pas l'imagination, mais l'observation, et la capacité à transposer ses observations. Le scénariste est avant tout un adaptateur de la réalité du monde dans lequel il vit. Y compris dans un film historique ou futuriste qui ne touchera personne profondément s'il n'a pas de résonance avec la réalité contemporaine. Et plus encore, un adaptateur de sa réalité intérieure, de ses problématiques propres, de son passé, de sa sensibilité et de son regard personnel sur ce qui l'entoure. Un scénario, comme un rêve, est une adaptation, une transposition, une interprétation de la réalité. Jamais une invention pure. Sinon, il se coupe irrémédiablement du public qui a besoin de retrouver sa vie, décrite, rêvée, inversée ou menacée dans un film, et de confronter ses interrogations personnelles à la problématique d'une histoire ou d'un personnage. Je ne crois pas qu'il soit réellement possible d'écrire plus de quelques heures par jour. Mais penser à ce qu'on écrit, à ses personnages, aux problèmes de construction de son intrigue, ça c'est possible 8 heures par jour, et parfois plus. Dès qu'on a fait germer un personnage, on a le devoir de le trimballer avec soi, partout, à tout moment, et lui faire partager ce que l'on vit, l'enrichir et le nourrir de ce que l'on vit. 9 mois, c'est à peu près le temps moyen qu'il faut pour écrire un bon scénario. Ce que j'aime bien dans cette idée de 9 mois, c'est que c'est aussi le temps d'une grossesse menée à son terme. Et il n'est pas besoin d'être un pédiatre de génie pour savoir que pendant les 9 mois de grossesse, le mode de vie de la mère, son environnement, les émotions qu'elle éprouve, ses tristesses, ses joies, ses envies frustrées ou épanouies, joueront sur le caractère et la santé du bébé à naître. Un scénario est une éponge à émotions, à vibrations, à vie. Aucun scénario ne peut complètement se détacher de l'état psychologique et du quotidien de son auteur. Notre compte en banque à découvert, une rupture amoureuse, une recherche d'appartement, le temps qu'il fait. Au moment où il a été écrit. Un de mes étudiants m'a reproché récemment de trop faire de digressions dans mes ateliers et de parler trop souvent de ma life. Pourtant, force est de constater, après 25 ans d'expérience, que les séances d'écriture à plusieurs sont souvent, aux trois quarts, des digressions, des anecdotes de vie et des partages d'observations humaines. Ce n'est qu'en se remémorant sa propre vie qu'on peut trouver des solutions pour faire vivre ses personnages. Je ne pense qu'on ne peut pas écrire ni jouer, ni filmer, ni même diriger un atelier d'écriture autrement qu'en étant ce que l'on est, ni détaché totalement de ce que l'on vit. À moins d'être un de ces plagieurs sans âme, et par conséquent sans état d'âme, qui pullulent autant dans le cinéma qu'en public, où ils caressent le spectateur dans le sens de la non-pensée et de la démagogie, l'œil braqué sur les chiffres d'entrée, que dans le cinéma d'art et d'essai, où ils caressent la critique dans le sens de la non-émotion et de l'esthétique vide, l'œil braqué sur les festivals et sur leurs égaux. Ne restez pas à vos claviers si vous ne tapez pas dessus. Sortez, vivez, voyez des films et des gens. Ils seront toujours de meilleurs déclencheurs d'idées et de meilleures sources d'inspiration que le regard creux et déprimant d'un écran vide. Les meilleures idées arrivent toujours quand on ne les attend pas, mais quand on s'est mis dans l'état de les laisser venir. L'imagination est une incorrigible rebelle exaspérée par les ordres et les horaires de fonctionnaires. Ce qu'on appelle l'inspiration, ce n'est peut-être qu'une respiration concentrée. Plutôt que de forcer les choses, il faut les laisser venir. Se mettre en position ou en disposition de les laisser venir. Les attendre de cœur ferme et l'esprit ouvert aux quatre vents. Paradoxalement, si cette idée ou cette solution tant espérée arrive enfin, il ne faut pas non plus se précipiter dessus. Il faut lui laisser le temps de vous pénétrer, la laisser s'imposer. Et souvent, elle ne s'impose que quand d'autres idées ont essayé de la doubler et de prendre le dessus. Au début, on écrit uniquement avec l'envie ou avec la terreur d'être lu. On est pressé d'avoir terminé avant même d'avoir commencé. Il m'a fallu des années pour comprendre que ce n'est pas le but du voyage. C'est 90 ou 100 pages d'arrivée qui sont importantes, mais la teneur du voyage. Il faut apprendre à profiter du voyage et savoir prendre le temps. Les chemins de traverse sont un bien meilleur parcours que les autoroutes pour les scénaristes. Car écrire un bon scénario prend du temps. Mais pas nécessairement du temps assis, et encore moins du temps utile. L'angoisse, évidemment, fait partie de l'écriture. Mais la culpabilité est aussi un moteur d'écriture étonnamment puissant. plutôt que de s'angoisser parce que rien n'arrive, assis devant son ordinateur, autant culpabiliser parce qu'on a quitté son bureau pour fuir cette angoisse en allant boire un verre avec un ami ou voir un film ou faire du sport. Ce chapitre n'a pas pour but d'exalter la paresse et de vous faire déserter votre bureau. Il faut impérativement se caler des horaires de travail, ne serait-ce que pour ne pas les respecter, mais en ressentir une culpabilité productive. Ne jamais oublier que l'écriture est un acte isolé et finalement peu important en termes de temps dans la vie d'un scénariste. On ne devrait s'asseoir pour écrire que lorsque l'on a quelque chose à écrire. Isaac Newton a trouvé sa loi de la gravité en recevant une pomme sur la tête alors qu'il s'était endormi sous un arbre. Ce n'est pas en restant dans votre bureau que la pomme vous tombera sur la tête, à moins que, par miracle, vous ayez installé votre bureau sous un pommier. C'est toujours bon d'écrire dehors. Et la blancheur changeante d'un nuage sera toujours plus inspirante que la blancheur pixelisée d'un document Word. Si tu penses à tes personnages, à tes problèmes de structure, si tu ne les perds pas complètement de vue, si tu t'es posé assis des questions avant de te lever, pas d'inquiétude. Ta muse sera te trouver où que tu sois. Chapitre 2. La formule magique. La formule magique d'un scénariste, c'est de partir de la réalité et d'y ajouter un « et si ». C'est ce que j'appelle la transposition. C'est le point de départ de toute bonne histoire. Une histoire, un postulat d'histoire, démarre toujours avec « et si ». Le monde réel, comme les contes de fées, est rempli de petits et de grands « et si » qu'un bon scénariste doit dénicher. Le cerveau des paranoïaques en est plein aussi, et celui de gens jaloux, et celui des adeptes des théories du complot qui cherchent des petites failles dans la réalité pour les colmater par des « et si ». Celui des gens vraiment amoureux et confiants. Il a remplacé les « et si je ne rencontrais jamais l'âme sœur, et si je n'avais pas assez confiance en moi pour avoir confiance en l'autre, par des « et enfin » ou des « et alors ». C'est pourquoi les gens amoureux, les gens heureux en général, ne sont malheureusement de bons personnages que si la réalité les propulse dans le drame. Les gens malheureux propulsés dans le bonheur peuvent aussi devenir de très bons personnages. « Les gens heureux n'ont pas d'histoire » est un dicton populaire qui, comme beaucoup de dictons populaires, pourrait être une maxime de scénariste. J'ai longtemps rêvé d'écrire un film heureux, où il n'y aurait que du bonheur. Mais le bonheur est probablement une des choses les plus difficiles à écrire et encore plus à filmer, sans tomber dans les clichés sirupeux ou la démagogie de certaines comédies à succès. Le bonheur n'existe réellement qu'entouré de conflits qui le mettent en péril. Le bonheur est toujours en état de guerre permanent. Si, en France particulièrement, on regorge de réalisateurs sachant filmer le malheur, le sordide, l'hystérie, les névroses en tout genre et le malheur sous toutes ses formes, qui sait vraiment filmer le bonheur? Qui même en a envie?
Ce soir, nous sommes septembre et j'ai chambre, le soleil n'y entrera plus, tu ne m'aimes plus. Là-haut, un oiseau passe comme une dédicace.
Chapitre 10. Deux joues qui rougissent. Dans la vie, ce que j'aime le plus, c'est les gens, et observer les sentiments humains qui animent ces gens. Jamais le spectacle d'aucun paysage naturel grandiose, fût-il baigné du plus beau coucher de soleil du monde, ne m'a procuré autant d'émotions que celui d'un visage humain, comme celui incroyable observé récemment d'une larme qui ne coule que d'un œil pendant que l'autre semble sourire. Et dans les films, c'est pareil. Au plus beau plan technique, je préférerais toujours le regard offert d'une actrice ou la tendresse contenue d'un acteur. Les effets spéciaux les plus réussis du monde ne vaudront jamais pour moi celui naturel de deux joues qui rougissent. Tout part et tout revient toujours au personnage. Ce sont eux qui donnent de la vie à un bon scénario et non pas les péripéties. Dans la vie, je suis persuadé qu'il faut laisser de la liberté aux gens qu'on aime. Et c'est tellement dur parfois. On est tous quelque part des tyrans qui s'ignorent ou des intolérants qui se censurent. Leur laisser la liberté d'être eux-mêmes, même si on n'aime pas tous ce qu'ils sont, ni ce qu'ils deviennent. Et la liberté d'être différents de nous. Il faut les connaître par cœur et les aimer comme ils sont, aimer leurs forces autant que leurs faiblesses. Dans la vie, on peut dire qu'on aime vraiment quelqu'un le jour où on a appris à aimer ses défauts. Au moins, à les trouver touchants ou drôles. Et la seule preuve d'amour qu'on peut donner aux gens qu'on aime, c'est la confiance. Une confiance absolue. Exactement comme avec nos personnages. Ces étrangers qu'on doit apprendre à découvrir, à comprendre, à aimer d'une manière ou d'une autre, ne serait-ce que dans une seule scène, fussent-ils les pires salauds. Il faut au début accepter de leur tenir la main. Mais, et c'est beaucoup plus dur, accepter ensuite de les laisser tenir notre main. Se laisser guider par eux, même si on ne sait pas trop où ça nous mène. Les aider à trouver leur propre voie, qui ne sera pas nécessairement notre voie. Les laisser nous surprendre. Même si leur liberté nous amène dans des tréfonds de notre imaginaire où on aurait préféré ne jamais s'aventurer et d'où on ne sortira pas indemne. Même si leur agissement nous remet en question. Alain René déclarait « Je commence à penser qu'un personnage existe quand il dit quelque chose qui me choque. » Chapitre 11. Le sommet de l'iceberg. Quand un beau portrait photographique nous touche par sa vérité, ce n'est pas dû seulement au grain de la photo, mais surtout à la vie qu'il y a derrière le visage. Et pas seulement au moment de vie figée sur la photo, mais à toutes les années qui l'ont précédé pour façonner chaque ride de ce visage. À tous les souvenirs heureux ou tristes qui ont donné un éclat au regard ou le lui ont fait perdre. Si ce visage n'exprime rien, le meilleur photographe du monde ne parviendra pas à lui donner une âme, juste un décor et une lumière. Si la vie d'un personnage se réduit seulement à ce qu'il fait à l'écran, on va rapidement se ficher complètement de ce qui lui arrive. Un personnage complexe, riche, contradictoire, imprévisible, pourra se retrouver dans n'importe quelle situation, même la plus banale. Ses réactions nous passionneront toujours. Le scénario, c'est uniquement une petite fenêtre sur la vie du personnage. La vie d'un grand personnage ne commence pas à la première page d'un scénario et ne se termine pas à la dernière page, y compris si celui-ci meurt à la fin du film. Si j'ai toujours imaginé ce qui était arrivé au personnage avant le début du scénario, combien de fois, le scénario terminé, j'ai continué à rêver de ce qui lui arrivait après la fin de l'histoire, ou quelles étaient les conséquences de sa mort. Comment son souvenir continue à vivre. Le scénario, cette centaine de pages qui raconte une histoire d'une heure et demie, n'est que le sommet d'un iceberg. Ce sont les 10% qui se verront, se partageront avec les spectateurs, mais le plus important, c'est les 90% invisibles. Les racines, la base des personnages, le sous-texte de l'histoire, la documentation, tout ce qui fera que les 10% visibles seront vivants, vrais et profonds. Chapitre 14. Un travail de deuil accéléré. Il faut écrire des pages et des pages pour tout savoir d'un personnage de sa naissance à l'âge qu'il a dans le scénario, et parfois même au-delà. Il faut tout connaître du personnage. Et puis, tout oublier. Passer d'une foule d'informations à une unique impression du personnage. Il faut arriver à incarner notre personnage dans une simple image qui synthétisera son évidence et sa complexité, ou une chanson, une couleur, une odeur, un objet. Une image qui nous permettra d'oublier toutes les notes prises avant, de laisser tomber le bloc pour pouvoir avancer librement dans l'écriture. Je compare ça au travail de deuil dans la réalité. Quand on a perdu quelqu'un, par mort ou par désamour, on est assailli devant son cercueil ou devant sa lettre de rupture par des centaines de souvenirs qui se télescopent, plutôt bons ou plutôt mauvais, mais innombrables, qui nous déchirent le cœur de rage, d'émotion, de regret ou simplement de désespoir. Puis le temps passant, d'autres personnes, elles bien vivantes, viennent animer notre existence et font battre à nouveau nos cœurs. La vie reprend ses droits, on finit par penser à la personne qu'on a perdue moins souvent. Certains souvenirs s'imposent, d'autres disparaissent dans les néants de la mémoire inconsciente. Et avec les mois, les années, quand le travail de deuil s'est fait, c'est un souvenir, une photo, un parfum, une scène, une impression ou un moment, une seule image qui s'impose spontanément pour résumer la personne disparue, même si d'autres images viennent ensuite. C'est ce qu'il faut faire quand on crée un personnage. Un deuil en accéléré qui ne prendra pas 10 ans, comme dans la vie, mais 10 jours ou 10 heures. Résumer un personnage à une image qui exprimera tout entière le souvenir qu'il laissera au spectateur quand il sortira du film, et surtout qui vous guidera pendant toutes les phases de l'écriture. Le dramaturge Henri Ibsen racontait qu'il faisait en général 3 versions de ses pièces. Dans la première, il connaissait ses personnages comme après un voyage en train. Dans la seconde, il les connaissait comme après un séjour en station thermale. Et après la 3e version, il les connaissait intimement comme après une vie d'amitié. créer une vie d'amitié en quelques jours ou en quelques semaines, et trouver une photo de cette amitié qui en résume des décennies, c'est la tâche titanesque de tout scénariste. Chapitre 19. Fils d'horloger. C'est d'abord en tant que spectateur que j'ai commencé à en avoir assez de retrouver toujours les mêmes professions dans les fictions. Il y a plusieurs milliers de professions différentes en France, mais elles se résumaient dans tout ce que je voyais à une grosse vingtaine, la plupart véhiculant de lamentables clichés et un manque patent d'imagination et de documentation. Je cite les principales. Policiers, architectes, chirurgiens, dentistes, obstétriciens, fleuristes, institutrices, avocats, libraires, professeurs, acteurs, concierges, femmes de ménage, serveurs, restauratrices, maîtres nageurs, voyantes, publicitaires, caissières, écrivains, journalistes, épiciers, ingénieurs, vétérinaires, chefs de travaux publics, ouvriers de travaux publics, dealers. Bon, ok, c'est pas vraiment une profession. Esthéticienne. Ces professions récurrentes, ajoutées au fait que les trois quarts des fictions françaises se passent à Paris et dans sa région, devenaient lassantes à la longue. Les métiers sont donc devenus autrement importants pour moi et pour mes personnages. Je n'hésite pas à aller sur le terrain pour comprendre un métier, son contexte, humer les odeurs. Il m'est arrivé d'aller passer 2 jours à Cherbourg dans une usine de parapluies pour en apprendre la fabrication et les termes techniques. Parce que je savais qu'un de mes personnages fabriquait des parapluies et que pour une déclaration amoureuse ou des souvenirs du personnage, je pouvais peut-être en avoir besoin. En fait, je n'ai rien utilisé, mais ça a été une expérience passionnante d'apprendre comment se fabrique un parapluie. Pour une série télé, où le personnage principal était un chirurgien esthétique, j'ai assisté en salle d'opération à 7 interventions de chirurgie esthétique, d'une rhinoplastie à un lifting. Se transformer en journaliste, en documentaliste ou en apprenti, c'est devenu un plaisir du métier de scénariste. D'autant que ça permet de sortir de mon bureau. Internet, et principalement Wikipédia, pas plus que tous les films que vous avez vus, ne pourront jamais remplacer un déplacement au cœur de Rungis, ou dans les couloirs d'un tribunal. Mon père disait ne pas aimer son métier, horloger bijoutier. Il aurait voulu avoir un garage, réparer des voitures. On peut aussi définir un personnage par le métier qu'il aurait voulu faire, par le métier qu'il ne fait pas. Et pourtant, je crois qu'il aimait bien son métier, mon père. Un mécanisme de montre, c'est comme un monde en miniature, sans autre sentiment que la régularité de métronome du temps qui passe. Mais au-delà des montres, le monde réel était bien trop désorganisé pour lui. Si je devais garder une image forte de mon père, ce serait lui dans son atelier, une loupe collée à l'œil, en train de remettre un ressort, remplacer un écrou, acharné sur un temps arrêté, acharné à faire repartir le temps ou à le remonter. Bizarrement, alors même qu'il disait ne pas l'aimer, l'image qui reste la plus vivace de mon père, des années après sa mort, est liée à son métier. Et pour terminer ce chapitre, sur une autre définition de personnage, je pense à ma mère, qui, accablée par mes retards permanents, a des centaines de fois prononcé cette phrase. C'est quand même un comble pour un fils d'horloger de jamais arriver à l'heure. Comme quoi, un choix de métier peut aussi amener des répliques.
Nothing left to lighten up my way. Honestly, don't know.
Chapitre 33. Ceci n'est pas une colombe. Il y a quelques mois, pour expliquer à mes étudiants comment utiliser des objets pour résumer visuellement une situation, j'ai emporté au CEEA une quinzaine d'ustensiles et d'aliments de ma cuisine. Couteau, fourchette, salière, tasse, sucre en poudre. Chacun de mes étudiants devait en utiliser deux ou trois pour raconter une histoire d'amour. Vous n'imaginez pas combien on peut raconter d'histoires d'amour avec deux ou trois éléments culinaires ou ménagers. Poser deux lignes de sucre sur une table afin d'incarner deux parcours solitaires, les faire se rejoindre pour former un couple, y rajouter un peu de poivre, comme un intrus dans ce couple, que ce soit une personne ou un sentiment qui le gangrène de l'intérieur, comme le manque de confiance, la routine ou un lent désamour, pour finir sur deux lignes de sucre qui se séparent pour reprendre leur chemin solitaire. On peut résumer 10 ans de l'histoire d'un couple ou une histoire d'adultère avec simplement une salière et une poivrière, beaucoup plus efficacement qu'avec des dizaines de dialogues. « Objet inanimé, avez-vous donc une âme ?» se demandait Lamartine dans un célèbre poème. La réponse pour un scénariste doit être un oui, sans réserve. Les objets dans un scénario peuvent devenir des personnages à part entière. Il m'est fréquemment arrivé dans son construction de poser une ligne pour un objet au même titre que celle posée pour les personnages. La boîte de chocolat de Forrest Gump, métaphore de sa vision du monde, est gravée dans l'esprit des spectateurs. Un objet peut être un symbole plus important que tous les discours. Et la force des symboles, dans la vie comme dans les scénarios, est essentielle. L'histoire du cinéma et nos histoires personnelles sont balisées d'objets signifiants. Un objet peut déclencher des ravages monumentaux ou symboliser des résurrections spectaculaires. Un objet peut remplacer des pages de dialogue. Un objet peut révéler une trahison, résoudre une enquête ou remplacer une longue déclaration d'amour. Dans Titanic, le médaillon de rose appelé le cœur de l'océan, car les objets peuvent aussi avoir un nom comme les personnages, a une multitude de fonctions dramatiques différentes au cours du film. De déclencheur de souvenirs pour Rose et Agé au premier acte, il devient plus tard objet d'accusation et d'enfermement pour Jack. C'est un des enjeux les plus nobles d'un scénariste. Faire sentir les objets et pas seulement les montrer. Leur ajouter une âme. Les faire rebondir d'acte en acte, leur donner une fonction métaphorique, poétique ou psychologique. Pour terminer ce chapitre, voici une histoire personnelle. Le personnage principal en est ma mère. Ma mère, donc, a toujours eu une forte tendance animiste. Aussi loin que je me souvienne, elle a toujours donné des noms aux objets qui lui sont chers, y compris ses voitures successives. Elle est aussi une fervente adoratrice des symboles. Voilà, le personnage est posé. Il y a quelques années de cela, plusieurs de mes amis en visite dans l'Aveyron voulaient lui offrir un cadeau pour la remercier de son accueil. Guidés par mes conseils, leur choix s'était porté sur un écureuil en pierre, haut d'une trentaine de centimètres. Ma mère a adoré leur cadeau et immédiatement attribué un nom à l'écureuil. Je ne me rappelle plus lequel, et exposer celui-ci en place d'honneur, sur une colonne dans un coin de la salle à manger, en déclarant qu'il serait pour sa maison un symbole d'économie, de prospérité et de sagesse. Un an plus tard, une réunion de famille s'organisait pour le lendemain, et nous rangions la salle à manger quand, par inadvertance, ma mère a fait basculer l'écureuil qui s'est brisé en 1000 morceaux au pied de sa colonne. Ma mère a pleuré parce que ça signifiait, d'après elle, que la prospérité allait quitter la maison et que j'allais dilapider mes économies aux 80. 2 heures plus tard, elle avait retrouvé le sourire en remontant de la cave avec une colombe en plâtre affreusement peinte et à l'air un peu idiot. Elle remplaça l'écureuil par la colombe, immédiatement surnommée Colombine, sur la colonne de la salle à manger. Et elle m'annonça que cette colombe était encore mieux que l'écureuil, car elle symbolisait la paix, l'amour et la sérénité qui désormais régneraient dans la maison. Le lendemain, toute la famille était réunie dans la salle à manger autour d'une grande paella. L'ambiance était joyeuse, et là, le drame. En faisant le service de la paella, ma mère a donné un coup de coude à la colonne et la colombe s'est éclatée sur le sol en 1000 morceaux, exactement au même endroit que l'écureuil. Là, ma mère s'est littéralement effondrée. Cris, larmes, personne ne pouvait la calmer. Ma grand-mère m'a demandé si ma mère était folle. Ma tante lui a très justement fait remarquer, mais c'est juste une colombe en plâtre. Tout le monde était inquiet, sauf moi. J'étais le seul à savoir que cette colombe représentait bien plus pour ma mère qu'une colombe en plâtre, qu'elle avait une histoire. Le lendemain, j'ai acheté un canard en bois, donc a priori incassable, pour remplacer la colombe. Ma mère l'a beaucoup aimé, mais a décidé de ne pas lui trouver de signification. « Bon, c'est juste un canard, Ça suffit les symboles, on a vu où ça mène. Et elle a demandé à mon père, pour plus de précautions, de le clouer à la colonne, où il est toujours perché aujourd'hui. « Ceci n'est pas une pipe », inscrivait Magritte sur un de ses tableaux les plus célèbres. « Ceci n'est pas qu'un objet. C'est ce que les plus grands scénaristes inscrivent dans la mémoire d'un spectateur. Et pour ma mère, même si j'étais le seul à le savoir, tout comme il est bon dans un film que parfois les spectateurs sachent des choses que certains personnages ignorent, la colombe n'était pas qu'une colombe. » Chapitre 36. Les dialogues, c'est comme le vélo. Les dialogues sont toujours survalorisés dans la mythologie personnelle de nombre d'apprentis scénaristes. On a même l'impression que certains ne vivent que pour ce moment, où ils écriront les dialogues, et que la définition des personnages et la construction sont pour eux des formalités barbantes avant d'en arriver à faire parler leurs personnages. Les dialogues ont toujours été pour moi comme les bougies sur un gâteau, ou le nappage. Si le gâteau est excellent à déguster, on oubliera vite la couleur du gâteau. Et si le gâteau ne tient pas parce qu'il est mal construit, les bougies s'effondrent. Apprendre à écrire des dialogues, c'est comme apprendre à faire du vélo, à skier ou à nager. Une fois qu'on a pigé le truc, c'est à vie. Mais avant, on doit chuter, couler ou raturer beaucoup. La difficulté principale tient au fait qu'en écrivant des dialogues, on doit toujours garder en tête qu'on ne les écrit pas pour qu'ils soient lus, mais pour qu'ils soient dits, et pour qu'ils sonnent juste. Il n'y a qu'un seul conseil que je vous donne, c'est de toujours les dire à haute voix. De ne jamais écrire une phrase ou un mot de dialogue qui n'ait pas été prononcé. Et au-delà des dialogues, de se jouer la scène, les actions et les déplacements des personnages. Quand on a réellement vécu une scène en l'écrivant, qu'on se soit levé ou pas pour l'écrire, on doit se sentir aussi épuisé affectivement, quand ce n'est pas physiquement, que les personnages qui en sont les protagonistes. Je vais vous donner un exercice simple pour différencier le langage parlé du langage écrit. Enregistrez une conversation téléphonique ou posez un magnétophone au centre de la table pendant un dîner. Commencez par vous remémorer la conversation et écrivez-la sous forme dialoguée uniquement en fonction de vos souvenirs. Puis, sur une autre feuille, retranscrivez par écrit toute la conversation telle qu'elle a été enregistrée sans en changer un mot. Et là, en comparant les deux versions, vous verrez bien la différence entre un dialogue écrit et un dialogue réel. C'est un mix entre les deux qui fera un bon dialogue. J'ai parfois été appelé sur des films pour réécrire les dialogues. À chaque fois, je me suis rendu compte que ce n'était pas les dialogues qui posaient le plus gros problème, mais les personnages qui le disaient dans le scénario. Et accessoirement, les situations dans lesquelles on les avait placés. Encore un vieux dicton populaire. Si tu ne sais plus où tu vas, retourne d'où tu viens. Généralement, quand on bloque sur un dialogue, ce n'est pas du dialogue que vient le problème, mais de la situation. Et souvent, avant la situation, de la définition du personnage qui n'aura pas été assez travaillé. Une fois que vous avez mis des personnages intéressants dans une situation intéressante, tout ce qu'ils disent devient intéressant. Chapitre 37. Je ne suis pas Enid Blyton. J'aime les acteurs. C'est une des raisons qui me font aimer mon métier. Les plus grandes joies de ma vie de scénariste, c'est toujours par les acteurs que je les ai eus. Même avec des acteurs que je n'ai jamais rencontrés. J'ai eu plus de proximité et d'intimité par personnage interposé qu'avec aucun des réalisateurs avec qui j'ai souvent écrit pendant des mois. Je dois énormément aux acteurs qui ont joué mes textes. Ce ne sont pas les réalisateurs, mais les acteurs qui sont les alliés les plus intimes du scénariste. Et je pense personnellement qu'un bon scénario se remettra moins bien d'un réalisateur moyen que d'un mauvais comédien principal. Sans un acteur, un personnage n'est rien qu'un être de mots décharnés. Les scénarios, même les meilleurs, ne contiennent que des mots morts. Leur ligne dramatique ressemble à un cœur artificiel. C'est l'acteur qui dégage l'éclair qui donne vie au cœur artificiel. L'auteur donne l'âme et les gènes d'un personnage, mais c'est l'acteur qui a le suprême pouvoir de les faire exister. On pourrait penser que tous les acteurs et les scénaristes sont portés sur la mythomanie. Ce n'est pas vrai. Acteurs et scénaristes sont tous plus ou moins schizophrènes, ou en tout cas assez mal dans leur peau pour avoir besoin de s'en créer d'autres. Mais ils sont rarement mythomanes. Ils peuvent exagérer la réalité, mais ils ne l'inventent pas. Les plus grands mythomanes que j'ai jamais rencontrés dans ce métier étaient tous des réalisateurs. Le genre de mère adoptive qui vous raconte avec moult détails la douleur de son accouchement. La schizophrénie, par contre, n'est pas un danger pour un réalisateur. Il est difficile de se perdre en se confondant avec sa caméra, sauf pour quelques génies. Alors qu'elle menace scénariste et comédien avec la même force. Combien de fois je me suis confondu avec un personnage au point de parler comme lui pendant des soirées entières, de penser comme lui. Et là, je sais que tous les acteurs me comprendront. Mon premier agent, François-Marie Samuelson, m'avait dit un jour « Fais attention, Alain, de ne pas te laisser bouffer par ce que tu écris. Pense à Enid Blyton. » Enid Blyton ? Celle qui a écrit « Oui, oui, le club des cinq, je joue lapin ?» Celle-là même. Tu ne sais peut-être pas, mais elle a fini folle en pensant que ses personnages étaient réels et que les personnes autour d'elle étaient imaginaires. Sur son lit de mort, elle appelait « Oui, oui », mais ne reconnaissait plus ses propres enfants. J'avais bien ri quand il m'avait dit ça, mais depuis, j'ai souvent quitté mon ordinateur comme on fuit un grave danger. Je ne voulais pas finir comme Enid Blyton. Chapitre 43. Une vie en suspension. Il y a quelques années, j'ai été membre de la commission d'aide à l'écriture et à la réécriture du CNC. J'ai dû y lire environ 250 scénarios, et j'ai constaté que dans les trois quarts, les dialogues étaient truffés de points de suspension. C'est devenu une mode que je trouve très désagréable, de mettre après chaque réplique ou chaque mot des points de suspension. Les auteurs pensent probablement que ça donnera une impression de vie à leur dialogue. Or, je n'y vois pas une impression de vie, mais une impression de bégaiement. Je hais les points de suspension dans les dialogues. Je les vois comme des petites crottes au bout d'une phrase qui veulent la rendre mystérieuse, mais le plus souvent, la rendre bâclée et moche. Un dialogue, c'est comme une partition pour un comédien. Avec ses respirations, ses notes chuchotées, celles plus hautes. Et la plupart du temps, les points de suspension sont totalement injouables par les comédiens. On peut très bien préciser un temps entre deux phrases d'une réplique. Là, un acteur saura comment il faut la jouer. Et un temps n'est pas la même chose qu'un silence. Comme dans le code de la route, un panneau stop n'est pas l'équivalent d'un feu rouge. Les mauvais dialogues sont aussi truffés de points d'exclamation. Quasiment chaque fois qu'un mot se promène seul ou en couple, il est accompagné d'un point d'exclamation. Tennessee Williams pensait que les points d'exclamation étaient la spécialité des mauvais dramaturges qui n'étaient pas capables de donner assez de force et d'importance à leurs phrases sans avoir recours à cette ponctuation. J'apparente moi-même le point d'exclamation à une barre mal finie, une canne vulgaire, sur laquelle s'appuie une phrase bancale pour ne pas s'effondrer. Là aussi, à moins de faire jouer un comédien comme un ravi de la crèche, le point d'exclamation n'aide généralement en rien le travail de l'acteur. Si un personnage crie au milieu d'une réplique, il ne faut pas hésiter à mettre son dialogue en majuscule. De la même manière, si un mot est important dans une phrase, je n'hésite pas à le souligner dans le scénario. Depuis quelques années, cette guerre personnelle contre les points de suspension et d'exclamation traumatise tellement mes étudiants qu'ils finissent par ne plus en mettre aucun. Et c'est moi, alors, qui en rajoute dans leur scénario. Car parfois, ils sont quand même nécessaires. Par exemple, quand un personnage s'arrête au milieu d'une phrase parce qu'il est coupé par son interlocuteur ou parce qu'il s'apprêtait à trahir un secret et vient de s'en rendre compte. Mais s'il y en a trop, ils ne se voient plus et ils ne veulent plus rien dire. Et ce qu'on pense être un code scénaristique n'est finalement qu'une forme d'impuissance à exprimer la vie quand ce n'est pas juste un ornement à la mode ou une volonté puérile de se la jouer scénariste. Chapitre 49, le lycéen qui termine sa dissertation dans la nuit. Au lycée, il y a ceux qui terminent leur dissertation dans la nuit précédant la remise au prof, et ceux, dont j'étais, qui s'organisent pour répartir leur travail sur la semaine et peuvent regarder un film la veille de leur remise, car leur dissertation est terminée depuis longtemps. Les scénaristes ne sont pas si différents des lycéens. Toute leur vie, ils doivent rendre des dissertations à la différence près que les leurs font souvent une centaine de pages. Et ils devraient toujours se souvenir de la fable de La Fontaine où la lente tortue, qui va qu'à un cas, mais avec une régularité de métronome, l'emporte à l'arrivée sur le lièvre plus rapide, mais éternel vantard procrastinateur. On n'écrit jamais bien dans l'urgence. Le « ça passe ou ça casse » peut marcher une fois ou deux. Mais il y a un moment où cela ne marche plus. La régularité dans le travail, l'organisation de ce travail sont des facteurs majeurs de réussite et de durée. Lorsqu'on dispose de 3 mois pour rédiger un texte et qu'on le rédige dans les 3 derniers jours, il sera généralement moins bon que si on y a travaillé tous les jours, le remettant en cause, le questionnant, l'améliorant au fil du temps et de la vie quotidienne. Je déconseille toujours à mes étudiants d'écrire la nuit, ce qui n'empêche pas de penser à son travail avant de s'endormir, comme je vous l'ai dit précédemment, ni de se relever pour prendre des notes. À moins qu'ils aient dormi toute la journée, ils auront à ce moment-là le lâcher-prise qu'il faut pour dialoguer certaines scènes, mais certainement pas l'énergie et l'intelligence à son optimum nécessaires pour mettre en place une structure vive et cohérente. L'exaltation que procure une écriture nocturne peut se révéler aussi décevante que ce rêve qu'on aura trouvé magnifique quand on l'a fait à 5 heures du matin, mais vous paraîtra plat et sans saveur quand on en fera le récit à quelqu'un à 5 heures de l'après-midi. Chapitre 50. L'ivresse de l'encre séchée. Tous ceux qui ont écrit un texte destiné à être lu savent le plaisir quasi extatique qu'on ressent à imprimer son texte, le relier, le feuilleter avec une joie enfantine doublée d'une satisfaction de monarque. Respirer le papier. Se dire « c'est moi qui ai écrit tout ça ». Brûler d'envie de le faire lire à la terre entière. Et attendre le compliment et les compliments qui s'en suivront inévitablement. Et pourtant combien de fois ce n'est pas le cas. Il faut toujours bien choisir ses premiers lecteurs. Panachez des lecteurs qui vous connaissent et vous aiment, avec d'autres qui ne vous connaissent pas, mais semblent avoir la même sensibilité que vous, et surtout ne jamais choisir dans ses premiers lecteurs quelqu'un qui ne vous aime pas et n'aime pas les mêmes films que vous. Son avis pourrait injustement vous détruire. Un premier lecteur a une puissance inouïe et souvent injuste. Ne jamais oublier que tous les goûts sont dans la nature et qu'aucun film ne fera jamais l'unanimité. J'ai découvert récemment le roman « Martin Eden » de Jack London, un chef-d'œuvre que je conseille à tous les scénaristes débutants. Il décrit, mieux qu'aucun livre, ce sentiment euphorisant et éphémère de la satisfaction du travail d'écriture accompli. Tous ceux qui ont écrit un texte qui leur tient à cœur savent aussi l'angoisse de relire quelques jours après son texte et de se dire que tout est nul, de trouver son contenu obsolète, de le poster à des producteurs avec l'angoisse qu'il y manque une page et l'attente. La longue attente d'un retour de lecture, le découragement, l'impression d'être un moins que rien, la paralysie totale qui s'ensuit, et bien souvent le désespoir et l'abandon d'une vocation qui vous semblait pourtant la seule respiration de votre existence étriquée. Jack London décrit si bien cela aussi dans Martin Eden. Si par chance, parmi les réponses négatives et les mails types de refus, vous recevez une réponse positive, il y aura ensuite les longs jours, quand ce n'est pas les semaines, à attendre un rendez-vous qui souvent se solde par une déception, à la mesure des espoirs fous qu'on y a placés. Pour mauvaise fréquentation, par exemple, j'ai eu 14 lettres de refus avant d'avoir une proposition de rendez-vous, qui a ensuite mis plus de 3 mois à s'organiser. Il n'y a qu'une solution à cela, se replonger immédiatement dans une autre écriture. Un scénariste, et un écrivain en général, ne doit jamais attendre. L'écriture est la seule profession du cinéma qui s'exerce seule, qui ne coûte rien au moment où on la pratique, sinon du temps et de la sueur. Si l'on écrit uniquement pour que son scénario soit acheté, si l'on n'écrit plus rien en attendant qu'il soit acheté, une seule chose est sûre, on n'est pas fait pour être scénariste. On est simplement quelqu'un qui a écrit accidentellement un scénario, et si ce scénario n'avait été écrit que dans le but d'être lu, et sans aucune nécessité personnelle, on peut se préparer à retourner à son activité première, avec l'aigreur en plus. Comme un boulanger qui n'aurait fabriqué qu'un pain changerait de profession parce que personne ne l'aurait acheté, en disant que tous les clients sont des cons. S'il en a fabriqué 100 et que personne ne les a aimés, là, il peut plus légitimement se poser la question d'une réorientation professionnelle. Et encore, il faut considérer la conjoncture et l'état du marché du pain. En écrivant un autre projet, vous oublierez complètement l'attente. Les lettres de refus perdront 90% de leur pouvoir de nuisance, de destruction, de confiance en vous et de paralysie. Les bonnes nouvelles perdront de leur éclat. Parfois, elles deviendront même anecdotiques après des années d'écriture. Mais les rendez-vous qui ne débouchent sur aucune perspective ne gâcheront plus vos soirées. Vous vous définirez comme quelqu'un qui écrit et vous aurez des choses à raconter dans les soirées. Ce sur quoi vous êtes en train d'écrire, même si je vous déconseille de trop parler dans le détail d'un travail en cours, les gens qui n'écrivent pas adorent donner des conseils à ceux qui écrivent, et pas toujours à bon escient. Et dites-vous que ce n'est pas en écrivant un seul scénario qu'on apprend à écrire, mais en écrivant un deuxième, qui vous permettra de corriger les erreurs faites sur le premier, et d'autres encore, si vous avez un certain talent, de l'opiniâtreté et de la chance.
Et nous arrivons déjà au terme de ce voyage à travers l'univers de l'écriture magnifiquement lue par le comédien Olivier Sitruc. L'intégralité du texte d'Alain Lérac est à retrouver aux éditions Hémisphère, au pluriel. Ce livre s'appelle Atelier d'écriture, je le rappelle, un livre qui paraît dans toutes les librairies. On se débute du mois de septembre. Merci beaucoup Alain.
Merci beaucoup.
Pour ce moment qui n'est pas encore tout à fait terminé, il nous reste un dernier extrait à écouter avec Olivier Sitruc encore une fois. Un moment qui vous tient particulièrement à cœur.
Oui, parce que c'est un petit extrait, tout petit extrait de la conclusion. Et j'ai vraiment écrit ce livre à la fois pour transmettre 25 ans d'expérience et aussi pour me souvenir de mon frère qui est mort il y a une trentaine d'années. Et sur lequel j'avais jamais réussi à écrire. Et je pense qu'il a fallu que je passe à travers un ouvrage sur la transmission, pour pouvoir enfin parler de lui. Donc voilà, le dernier extrait lu par Olivier, c'est quelque chose de très personnel, mais qui est au service du scénario, puisque finalement tout ce bouquin arrive à une conclusion. La vie est plus importante que tout, et on apprend beaucoup plus dans la vie que dans les livres. J'ai même écrit à la fin du livre, en fait, c'est le jour où vous jetterez ce livre qui vous servira à quelque chose. Il faut l'acheter avant de le jeter.
Merci Alain.
Merci beaucoup, au revoir.
Un dernier souvenir. Celui-là, postérieur à la mort de mon frère. M'a appris mieux que la colombe de ma mère ou le médaillon de Titanic, l'importance des objets. Quelques mois avant sa mort, mon frère avait gagné à une fête foraine un ballon plastifié en forme de cœur. Il l'avait gonflé et laissé traîner dans un coin de la maison. Ma mère a conservé ce gros cœur en plastique, gonflé par mon frère depuis sa mort. Aussi bizarre que ça paraisse, mais depuis la mort de mon frère, j'ai redécouvert que la vie pouvait être magique. Le cœur ne s'est jamais dégonflé depuis 30 ans. Ma mère le garde précieusement sur l'étagère la plus haute d'une armoire de sa chambre. Elle n'a pas fait de dépression à la mort de mon frère, ni à celle de mon père. Mais j'ai souvent pensé que si un jour, quelqu'un dégonflait par inadvertance le cœur en plastique, elle pourrait en faire une. Le souffle de mon frère enfermé dans le ballon est son bien le plus précieux. On parle du dernier souffle, mais celui de mon frère est toujours là. La force des symboles, toujours. Parfois, je me dis que c'est impossible que ce cœur en 30 ans ne soit jamais dégonflé. J'imagine quelquefois mon père le regonflant régulièrement, à l'insu de ma mère, pour lui faire plaisir et garder mon frère vivant. J'aimerais avoir eu un père qui ait été capable de faire ça. Le souffle de mon frère est aussi resté là, dans mon cœur. Il m'a toujours poussé dans le sens de la vie et fait réaliser la chance que j'ai d'être vivant. Il m'a toujours guidé pour essayer de faire du bien aux autres. Je rêve parfois que mon souffle à moi reste aussi quelque part après ma mort, dans un livre, dans une bulle de savon, dans un ballon, dans une montgolfière, ou simplement dans le cœur des gens que j'ai aimés. Écrire, vivre, ça sert peut-être à ça. Laisser une petite trace. Un petit souffle qui, mélangé aux autres, donne un vent frais et rempli de promesses qui continue à faire tourner la terre. Un petit souffle humain.
Moi je vous aime, putain! Et moi, je veux vivre, moi. C'est ça qui m'a appris à être vivante. À nous. Mais à la vie, merde. À la vie, putain.